Eh ben oui, j'avais oublié le curseur. Ah, excusez-nous, allez, c'est idée noire, bien sûr, vous le saviez, avec les petites bêtises que je fais tout le temps, là, oh là là. Ouais. Bon, vous êtes à l'écoute de idée noire sur le 102.2 de Radio Canut, donc de fait, l'émission de l'Union communiste libertaire, à tout de suite. Oui, bah, rebonsoir à toutes et à tous, avec 26 ans de boîte et pas foutu de retrouver le curseur qui me revient, donc c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est l'UCL là, au micro, l'Union communiste libertaire, avec son émission comme hebdomadaire, idée noire, donc ce soir avec Julia.
Qu'est-ce qui se passe? C'est la bande continue, non?
Il y a un problème.
Ça y est.
Ah, d'accord, ok. Bon, je sais pas. Enfin,
quel bon début d'émission, dites-moi.
Il y a des petits nains, je sais pas quoi, des fées ou je sais pas quoi. Enfin, bon,
qui
bref,
active les boutons donc, tout seul à ton insu.
Disais-je que vous êtes avec l'Union communiste libertaire, donc idée noire, sur, comme tous les mercredis de 20h à 21h, voilà. On va passer aux annonces.
Ouais, c'est parti. Bon, il y a des annonces qui sont passées. Enfin, je sais pas si vous étiez tout à l'heure. Il y avait deux rassemblements organisés. Il y en a peut-être un encore qui est encore en route. C'était à 17h tout à l'heure, le rassemblement de Jamais Sans Toi, pour la Journée internationale des droits de l'enfant et pour les 10 ans de Jamais Sans Toi. Je vous rappelle, Jamais Sans Toi, ce collectif, du coup, qui met à l'abri les familles, le plus de familles possible, en tout cas, avec enfants scolarisés, dans les écoles, puisque les autorités publiques ne permettent pas de mettre à l'abri ces familles-là. Il y a près de 200 enfants, qui dorment dehors, sur lieu. Voilà, et à peu près 70-80 qui sont mis à l'abri grâce à des collectifs qui regroupent enseignants, enseignantes, parents et soutien, voilà, la semaine, et puis qui organisent des goûters solidaires et autres collecte de fonds pour pouvoir payer le week-end les hôtels à ces familles-là, pour pas qu'elles soient dehors non plus. Donc voilà, c'était les 10 ans de Jamais Sans Toi aujourd'hui, et puis c'est plus que jamais d'actualité malheureusement, parce qu'il y a plus en plus de familles à la rue, et donc voilà, sur les 70-80 mises à l'abri, il y en a encore 100 ou 120 qui sont à la rue et qui n'ont pas de solution, donc ça devient ingérable presque, et puis la mairie, puis la préfecture se frotte entre guillemets un peu les mains aussi par rapport à cette prise en charge citoyenne du sans-abrisme sur Lyon. Ça les arrange bien aussi que les écoles soient occupées, qu'ils aient pas à gérer ça, mais voilà, en espérant que qu'on arrive à avoir le rapport de force et à mettre la pression pour que toutes ces familles soient logées, et peut-être même en dehors des écoles, voilà, avec un logement. Il y a pas mal de logements réquisitionnés, il paraît, sur Lyon et sa métropole. Et puis en ce moment, puis ça doit se finir, je pense, au centre LGBT, il y avait le Tidor, le jour du souvenir trans, voilà, avec un rassemblement qui était aussi place de la comédie, juste voilà, qui démarrait à 19h. Donc voilà, pour ce qui est à venir, c'est week-end assez chargé, on vous donne rendez-vous déjà dès vendredi soir à 18h à l'Illégalité, c'est au 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, avec la projection du film One Yacht sur une terre de la République française, organisée par le MKF Lyon et le collectif Solidarité Kanaké, dont fait partie l'UCL Lyon. Voilà, le but c'est de découvrir une partie de l'histoire de Kanaké à travers ce film documentaire et de participer du coup derrière à une discussion. Je vous lis un peu le pitch du documentaire qui a été réalisé par Emmanuel Desbouygues et Dorothée Tromparent. Le 5 décembre 1984, à Wan Yat, dans la vallée du Yenghien, des militants kanaks indépendantistes sont victimes d'une embuscade. C'est un carnage, 10 morts et 5 blessés graves. La tribu de Tiendanit est décimée, toutes les familles sont touchées. Le piège a été tendu par leurs voisins, des petits propriétaires de la vallée, descendants de colons, terrifiés à l'idée d'être chassés de leur exploitation. Les assassins se rendent et reconnaissent les faits, et pourtant ils ne seront jamais condamnés. Par deux fois, la justice française va les innocenter. Ils seront acquittés au motif de la légitime défense préventive, c'est quand même fort ça, un non-sens en droit français. Et les formes actuelles de la révolte en Kanaky pour l'autodétermination contre le colonialisme et le racisme évoquent un recul vers la période de quasi-guerre des années 80. Nous exigeons, le collectif et le MKF Lyon, la libération, la levée des poursuites et le retour en Kanaky des personnes emprisonnées dans le cadre de l'opposition au dégel du corps électoral, ainsi que le retrait total des forces d'un ordre colonial. Et donc après la projection, il y aura un temps de partage et d'échange. On poursuit avec le samedi 23 novembre, puisque c'est le 25, c'est la journée internationale de lutte contre la violence sexiste, pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Donc c'est le 25 novembre, et donc cette année, ça tombe un samedi, la manifestation, ça tombera donc le 23 novembre, avec un rendez-vous, c'est organisé par le collectif Droits des Femmes 69. Grande manifestation à partir de 15h au départ de la place Bellecour. À 14h, donc une heure avant, il y aura un happening des femmes en blanc, comme chaque année, organisé dans le cadre du festival Brisons de Silence. On vous rappelle, le festival Brisons de Silence, organisé par Filaction. On vous a donné un peu le programme il y a 15 jours, n'hésitez pas à aller voir sur le site. C'est du 15 novembre, donc ça a démarré il y a 5 jours, jusqu'au 30 novembre. Il y a encore pas mal de choses à voir, donc n'hésitez pas à y aller. Par rapport à ce 23 novembre, je vais vous lire le tract de l'UCL. Par rapport à cette journée, donc au niveau fédéral, donc contre les violences sexuelles, sexistes et de genre, amplifions la lutte. Donc le 25 novembre, ou le 23 selon les villes, nous manifesterons contre les violences patriarcales commises par les hommes. S'il est primordial de les pointer du doigt et de les combattre, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas à comprendre comme des cas isolés, mais comme la forme extrême de la domination des femmes et des minorités de genre par le patriarcat. De l'assignation aux tâches domestiques et au secteur professionnel du care déconsidéré et sous-payé, du harcèlement sexuel de rue à celui de nos lieux de fête et de socialisation, de l'insulte à la main aux fesses, au viol si peu condamné par la société, nous poursuivons notre combat contre ce continuum d'exploitation et de violence, contre le système patriarcal et le système capitaliste. Chaque année en France, les chiffres officiels viennent par eux-mêmes démentir l'instrumentalisation des VSS, des violences sexistes et sexuelles par l'extrême droite. Une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles. En 2023, 136 femmes sont mortes suite à des féminicides, 111 à ce jour en 2024. Dans 91% des cas de violence, les femmes connaissaient leur agresseur. Comme beaucoup, l'extrême droite s'est indignée du meurtre de Philippine, mais contrairement à bien d'autres, elle a omis de dénoncer le viol d'une enfant par trois pompiers, dont le procès se déroule au même moment, ou celui de Dominique Pellicot, qui pendant 9 ans a orchestré le viol de sa femme par 80 personnes. Les hommes qui commettent ces crimes ne sont pas des étrangers ou des monstres inconnus de toutes et tous, mais, entre guillemets, des monsieur tout le monde, nos compagnons, nos pères, nos frères. Leurs actes ne peuvent se comprendre que dans le contexte d'un système patriarcal qui les autorise à disposer du corps des femmes. Pour rappel, le gouvernement Barnier est un véritable cortège de la manif pour tous. 8 ministres sont issus de ses rangs. À leur actif, lutte contre l'ouverture du mariage aux personnes LGBT+, propos transphobes, opposition à la constitutionnalisation de l'IVG, etc., etc. À l'international, les guerres rendent toujours plus vulnérables les femmes et les enfants. Elles se conjuguent aujourd'hui avec des gouvernements toujours plus réactionnaires et libéraux comme Milei en Argentine ou Donald Trump aux États-Unis. Dans une société américaine toujours plus clivée, les masculinistes s'en donnent à cœur joie. Ils fustigent les droits des personnes trans et s'attaquent à la légalité de l'avortement. Nick Fuentes, podcasteur, influent, nationaliste, raciste et négationniste, a ouvert les hostilités le soir même des résultats avec une vidéo intitulée « Votre corps, notre choix » en parlant des hommes, en parlant du corps des femmes et le choix pour le corps des hommes. La guerre contre les femmes est donc ouverte. Non seulement nous dénonçons les violences des hommes sur les femmes et les minorités de genre, mais nous œuvrons également à l'abolition du patriarcat dans son ensemble. Nous participons à endiguer l'impunité des agresseurs, notamment en appliquant des protocoles de gestion des violences sexistes et sexuelles dans nos organisations. Nous combattons l'extrême droite et son instrumentalisation des violences patriarcales à des fins racistes. Et enfin, luttons contre le capitalisme qui participe à ces violences en assignant les femmes à du travail domestique et reproductif sous le contrôle des hommes. Inlassablement, partout où nous travaillons, où nous vivons, nous devons nous organiser, lutter et construire un rapport de force pour obtenir des avancées sociales, retraite, salaire, temps de travail, répartition des richesses, etc. Pour obtenir des moyens pour les assos qui luttent au quotidien contre les VSS et pour le droit des femmes et des personnes LGBTI. Pour obtenir la régularisation de toutes les personnes exilées et sans papier. Pour dénoncer le rôle de l'État français dans ces conflits, exiger l'arrêt des exportations d'armes et lutter contre la militarisation de la société. Et pour dénoncer tous les fascismes politiques et religieux dont les premières victimes sont toujours les femmes et les enfants. Donc voilà pour le petit communiqué de l'Union communiste libertaire. Et j'ai encore deux petites choses. J'ai encore le temps, c'est 20h10. Deux choses, un peu d'autopromo aussi par rapport à notre journal Alternative Libertaire. Grosso modo, on a besoin d'aide, hein, parce que voilà, le journal est déficitaire. Parce que maintenir la presse révolutionnaire en kiosque, bah, c'est un sacré combat. Et donc, comme chaque année, vous avez la possibilité de faire, avant le 31 décembre, un don défiscalisé au mensuel de l'Union communiste libertaire. Voilà, on a à peu près 5 semaines pour essayer de récolter 10 000 euros. Donc, via le dispositif presse et pluralisme, les donateurs et donatrices qui payent l'impôt sur le revenu bénéficieront d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Une attestation permettra de le mentionner lors de votre déclaration de revenus. Pour résumer, si vous donnez 100 euros, ça ne vous coûtera au final que 34 euros. La campagne de soutien de 2022 avait très bien marché, rapportant 14 000 euros en 5 semaines, presque le double de l'objectif que nous étions fixé. Cette somme avait couvert la moitié du déficit du journal en 2022, plombé par l'explosion des coûts du papier. En 2023, en 4 semaines, AL avait récolté 10 000 euros. Et donc, pour assurer la pérennité de la Alternative Libertaire, nous avions fait le choix, en janvier 2023, d'augmenter un petit peu le prix du journal, 4 euros en kiosque, et de l'abonnement, 30 euros l'année, ce qui a réduit le déficit, mais ne l'a pas résorbé. Donc, on vous demande voilà, de donner un petit coup de pouce pour Alternative Libertaire. On vous rappelle donc ce don déductible. Vous pouvez vous aussi souscrire aux amis d'AL, d'Alternative Libertaire, le journal, pour 50 euros, 100 euros ou 150 euros. Vous pouvez vous abonner aussi tout simplement. Donc, on m'a dit c'est 30 euros tarif normal et 20 euros pour les précaires. Et on peut voilà, souscrire à un abonnement groupé pour la vente militante, 72 euros l'année pour recevoir 6 exemplaires chaque mois. Donc voilà pour le petit coup de pouce et la petite pub, l'autopromo comme on dit pour notre journal. Et je finis cette première petite page par un communiqué de l'UCL sur la visite de notre président Macron à Rabat. Vous avez sûrement suivi ça, le titre du communiqué est « L'impérialisme français en visite diplomatique ». Donc fin octobre, il y a une vingtaine de jours, donc Macron se rendait au Maroc en visite d'État sur invitation du roi Mohamed VI, accompagné d'une délégation de plus de 100 personnes, dont des personnalités politiques et des ministres, et pas les moindres, hein, Bruno Retailleau notamment, mais aussi des personnalités publiques, parmi elles Teddy Riner, Jamel Debbouze, Gérard Darmon ou encore Jack Lang. L'étendue de cette délégation jusqu'à des proches du président interroge d'autant plus qu'un rapport de la Cour des comptes alertait déjà en juillet sur les coûts faramineux des voyages en délégation à l'étranger. Mais bon, ça, on passe. Alors que Macron a été reçu en grande pompe à Rabat, cette visite ressemble à s'y méprendre à un gala d'élite culturelle proche du pouvoir marocain comme français. Dans les médias, cette rencontre a été présentée comme une réconciliation entre guillemets entre les deux pays. En réalité, elle illustre juste une volonté de resserrer les liens franco-marocains pour consolider la présence française ou ça, et bien en Afrique du Nord. Cela se fait au sein d'un axe diplomatique pro-israélien, décidément bien attaché au mépris du droit international. Au-delà des tapis rouges et des dîners, l'influence française au Maroc ressort grandie de cette rencontre sur fond de lutte pour l'indépendance du Sahara occidental et de la montée en tension avec le voisin algérien. L'impérialisme occidental instrumentalise toujours les rivalités entre États-nations du Sud global. La politique néocoloniale de Macron et sa diplomatie bancale contribuent à l'instabilité du continent tout entier. Donc la visite de Macron s'inscrit également dans une tradition de collaboration pour le contrôle des flux migratoires, pour ça qu'il y avait Retailleau notamment. L'agence européenne Frontex a ainsi pratiqué le renvoi de migrants vers la Mauritanie ou la Libye dans les années 2000. On a assisté à des négociations avec la Turquie d'Erdogan pour garder des centaines de milliers de réfugiés syriens, syriennes sur son sol. Depuis des années, l'Europe sous-traite la gestion des migrations au sud. État impérialiste n'y faisant pas exception, la France et son gouvernement raciste et conservateur cherchent par cette visite à négocier avec le Maroc pour y contenir les hordes de migrantes et migrants fantasmes par l'extrême droite. Elle recherche davantage de possibilités de, entre guillemets, réadmission des ressortissants marocains en situation régulière, en gros, virer ceux qui sont en France qui ont une OQTF. En échange, Macron promet une coopération économique resserrée et des investissements français importants dans l'économie marocaine. En bref, un projet libéral qui sent bon l'afro-optimisme bolloréen. Si la France est la première source d'investissement direct à l'étranger au Maroc, la situation d'endettement du pays auprès du FMI ne semble pas inquiéter le président qui embarque avec lui les patrons d'Alstom, Total Energy, Thales, CMA, CGM et autres grands capitalistes français. Des dizaines d'accords ont ainsi été signés entre des groupes français et le Maroc sous la bannière du partenariat stratégique. Ainsi, le capitalisme français peut continuer de s'immiscer dans l'économie marocaine. La France peut se vanter de promouvoir la coopération et le partage tout en refusant de concéder la moindre miette de dignité aux demandeuses et demandeurs d'asile. En perpétuant les conditions de mort pour des centaines de milliers de gens qui fuient vers une vie meilleure, l'Union communiste libertaire revendique donc le dépassement des frontières et du cadre national vers une société fédéraliste où les bases politiques et économiques du racisme auront été abolies. Mais Macron a également fait polémique dans son soutien à la colonisation marocaine au Sahara occidental. Si les contestations des frontières entre l'Algérie et le Maroc tiennent déjà de l'héritage colonial et donc du tracé arbitraire des frontières, Macron a choisi de privilégier ses liens avec le Maroc, quitte à se fâcher davantage avec l'Algérie et mettre un coup à la revendication d'indépendance des Sahraouis, quand bien même le droit international reconnaît leur droit à l'autodétermination. La lutte de libération nationale menée par le Front Polisario depuis près d'un demi-siècle est légitime. La République arabie sahraouie démocratique, le RASD, proclamée en 1976 et membre fondateur de l'Union africaine, doit être souveraine. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a pour but depuis 91 d'y organiser un référendum d'autodétermination. Depuis 91, hein, la France doit se plier aux revendications du peuple sahraoui et cesser d'enfreindre le droit international en affirmant que, ouvrez les guillemets, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le territoire sahraoui est en outre défiguré par le mur de sable, entre guillemets, édifié par le Maroc à partir de 80. Ce mur de la honte est l'un des derniers grands murs frontières au monde. 2700 km de fossés minés et surveillés par des milliers de soldats. Ce mur est aussi écologiquement que culturellement destructeur. Le mode de vie nomade de certaines populations sahraouies se heurte à cette barrière infranchissable. L'attitude prédatrice du Maroc n'est pas seulement motivée par des arguments nationalistes, hein. Elle est aussi alimentée par la raison extractiviste de l'État marocain. Le Sahara occidental est riche en phosphate, utilisé dans de nombreux produits agricoles. C'est aussi une région pétrolifère avec d'importantes ressources offshore, des minéraux aux hydrocarbures, en passant par les réserves de poissons. Le Sahara occidental est une manne exceptionnelle pour le Maroc qui en occupe 80% du territoire. L'économie intrinsèquement coloniale repose sur la division impérialiste nord-sud qui structure le capitalisme mondial. Et malgré cette situation, certaines formations politiques de gauche refusent de prendre position. Nous, communistes libertaires, dénonçons l'alignement français sur l'État marocain. Nous affirmons la nécessité de permettre l'indépendance totale du Sahara occidental et exigeons la reconnaissance par la France pour ce référendum. Nous appelons à soutenir la lutte de libération nationale du peuple sahraoui. Liberté, démocratie, unité, slogan des indépendantistes sahraouis. C'est un communiqué de l'UCL qui date du 15 novembre 2024, donc du 4-5 jours, pas plus. Et voilà pour cette première petite page, monsieur.
Très bien, alors tu veux une petite musique ?
Eh bien, allez-y. Ben oui, tout à fait.
Le passage à la prochaine rubrique. On va écouter Claudine Lebeg, qui est une amie qui travaille avec Michel Bernard, entre autres. Voilà, pour la présenter. Je ne sais pas, je ne la connaissais pas. Alors, je me dis qu'un. Donc on va écouter, qu'est-ce que j'ai mis, Enchanté.
Voilà. Allez, c'est parti.
C'est parti.
Je suis femme obscure, femme armure. Je tire, je jure, je chevauche les murs. Je suis femme drapeau, sans cocarde. Je larde, je garde, je pointe. Je suis mal famée, infâme mal famée. Et j'en suis enchantée. Dérangeante, dérangée, dégenrée. Je déclasse et je trace, je déplace les murs. Je ne suis pas la femme, je suis sans index. Tout en majeur, à poil, à barbe. Je suis cash, je suis coach de mon sexe. Anatomiquement varié, je suis comme je suis. Et j'en suis enchantée.
Et vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la de l'Union communiste libertaire. Et donc après cette pause musicale, Claudine Lebègue, un petit tour sur les luttes sociales, n'est-ce pas ?
Bien sûr. Allons, c'est pas fini. On va partir en ce début du mois de novembre, donc c'était le 4 novembre, à la Capelle Blais, charmante petite bourgade de la Véron, avec un appel à la grève de la CGT qui a mobilisé 75% de l'effectif de l'usine Néo.
Alors ce soir, c'est mieux. Je suis complètement.
Je t'entendais moi, mais en fait, ouais, j'ai pas fait gaffe que ce soit le micro.
On entendait
ça.
Quand même un peu. Ah bon, d'accord, ok, mais je vais la recommencer quand même.
Vas-y.
Donc la Capelle Blais, disais-je, dans l'Aveyron, le 4 novembre, c'est un appel à la grève de la CGT qui a mobilisé 75% de l'effectif de l'usine Néo Baie, spécialisée dans la menuiserie alu, aluminium et PVC. La direction, après avoir fait état d'une remarquable santé de l'entreprise avec le chiffre d'affaires en hausse et des embauches, etc., eh bien, annonce des difficultés économiques. Alors, colère, évidemment, et incompréhension, et 9 suppressions d'emplois quand même, et 15 contrats d'intérim non renouvelés. Les grévistes, donc la CGT, exigent des explications sur ces incohérences qui visent 24 postes. La CGT appelée à la transparence et au dialogue, appelle à la transparence et au dialogue, donc cette direction déclare irrespectueuse cette mesure vis-à-vis des travailleurs, des travailleuses qui ont beaucoup donné pour la réussite de Néo Baie ces dernières années. Elle vise donc, il y a une condition à ça évidemment, elle vise un chiffre d'affaires à 65 millions d'ici 6 ans, alors qu'actuellement elle est à 35 millions d'euros et sur 3 sites de production, dont un en Roumanie, des fois que ça repart tout là-bas, éventuellement. Donc à Nîmes, c'est dans le Gard maintenant ce 8 novembre, avec une colère, donc encore, contre un management du style Légion étrangère, c'est peu dire. Donc une dizaine de salariés du transporteur Cogepar étaient en grève sur le site nîmois. La nouvelle direction qui est en place depuis le 1er octobre applique à marche forcée une règle qu'elle pense essentielle, le garde-à-vous. Le délégué CGT est visé par une procédure de licenciement, dénonce les conditions de travail, les mises à pied de salariés, etc., etc., qui concernent 5 personnes quand même. Fosse sur mer dans les Bouches-du-Rhône et une société de nettoyage, une autre encore, Isor, sur le site, je dis encore parce que nombre de ces sociétés posent problème à leurs salariés de plus en plus, donc Isor sur le site de ArcelorMittal pour cette grève, une revalorisation du revenu, un 13e mois complet, des qualifications aussi à revoir, des primes diverses, selon le syndicat FO. Vu que la direction décline la discussion, eh bien, c'était la grève le 4 novembre, puis on va dire un geste léger, 25 euros de prime salissure au lieu de 20. Oh, pour 50 euros demandés. Une bonne note, c'est le soutien évidemment des salariés de ArcelorMittal. Pour les salariés évidemment de Isor. Hauts-de-Seine maintenant, c'est le département 92, comme chacun sait, avec une grève des travailleurs et travailleuses sociaux du service intégré de l'accueil et de l'orientation. En plus court, ça fait SIAO. C'était le 5 novembre avec la CGT. Il et elle réclament donc le versement d'une prime versée en 2021 et 2022. Alors, ils se sont postés devant l'entrée de l'établissement des urgences du 115. C'est une prime exceptionnelle liée au gel des postes alloués par l'État et qui avait été bloquée par la direction du CIAO 92. Les négociations auraient démarré donc déjà en 2023. Un cortège s'est rendu à la préfecture des Hauts-de-Seine où là, ils ont reçu un refus. Le refus leur a été donc signifié. refus de cette prime. À Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, c'est un mouvement national, le 5 novembre, qui a animé donc, les salariés d'un EHPAD, un EHPAD MGEN, la fameuse mutuelle de l'éducation nationale. Ils ont mis en place même des piquets de grève pour te dire quand même que c'était gravissime, enfin pris au sérieux quand même, pour revendiquer le maintien de leurs droits sociaux. Le site est racheté par le groupe qui a été créé en 2017, le groupe VYV3, qui est un groupe privé dans l'offre de soins et accompagnement à but non lucratif, dont la MGEN fait partie par le groupe Union Mutualiste de Groupe, UMG. Vous suivez un peu, ça va
Ouais,
il
n'y
a pas besoin de mettre des flèches. Ah ouais, non, mais c'était coton, attention. Donc, 40 employés de cet EHPAD et des résidents, des résidentes, en rassemblement à Saint-Cyr, à l'appel de l'intersyndicale, quand même de, bien importante, avec l'UNSA, la CFDT, la CGC et la CGT, contre donc une casse sociale. En marche, qui est en marche, d'après l'intersyndicale, les conditions de rachat sont contestées. Il y a eu une suite, puisque le fameux, enfin une suite, le projet de, c'est plutôt une note que j'ai rajoutée, le projet de transfert donc de la MGEN vers le groupe VYV3 par le groupe machin, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Le projet de transfert donc date de juin 2023. Ça concerne quand même 35 établissements sanitaires MGEN, médico-sociaux et centres médicaux donc, qui se verront prendre la porte du groupe VYV, remettant en cause donc, le statut social des salariés d'après l'intersyndicale en juillet 2026. Ils s'y prennent à l'avance et c'est très bien. Faut dire que le chiffre du groupe VYV de 2021 est assez impressionnant. C'est en euros. Alors, vous avez un 10 et vous le faites suivre de 9-0 derrière.
Ouais.
C'est pas mal quand même. Ça déchausse les dents. Villeneuve, je sais de quoi je parle. Villeneuve-la-Garenne, maintenant dans les Hauts-de-Seine, c'était le 6 novembre, avec une grève des salariés de l'enseigne Métro. Métro, c'est des supermarchés pour le maintien de leurs droits et une augmentation de salaire de 3%. Alors c'est tout à fait logique, selon les grévistes, évidemment, et leur syndicat, la CGT. L'entreprise est en excellente santé financière et continue dans les bénéfices, alors que les salaires, c'est de 1500 à 2000 euros, pour ne pas dire que c'est le SMIC, évidemment. N'évolue plus depuis 5 ans. Alors, 3% devrait, dans un premier temps, rattraper, évidemment, qu'il faut entendre, le manque à gagner pour tous et toutes. Depuis 5 années de bons et loyaux services. Il dénonce également le décalage entre les bénéfices réalisés et les rémunérations. La Hague, maintenant c'est la Hague, c'est dans la Manche, évidemment. Ça a démarré le 4 novembre, c'est de la contestation, évidemment, encore une fois, chez Orano, usine de retraitement de combustible nucléaire. C'était le 8 novembre, la grève, évidemment, ça continuait le 8 novembre. La grève brillait de mille feux avec le syndicat majoritaire Sud et une participation de, je cite, alors là c'est la première fois qu'on me le fait celle-là, 15% de la masse salariale. Bon, c'est l'effectif, autrement dit. Bon, enfin, c'est assez amusant d'employer un terme comme ça, 15% de la masse salariale. Bon, pour un meilleur partage donc de cette fameuse prime de partage, la PPV, prime de partage de la valeur, et un mieux pour la rémunération de 2025, dans le cadre donc des négociations annuelles obligatoires. L'entêtement des grévistes devait donc durer jusqu'au 12 novembre. Orano, pour expliquer encore une fois ce qu'est Orano, et c'est une grosse société qui recycle toute la crotte nucléaire mondiale et qui est numéro un dans le domaine donc du recyclage, et c'est anciennement Areva, région Normandie depuis 2018, 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour Orano. C'est pas dégueulasse non plus, hein. C'est en Normandie, hein, je disais aussi ces prés, ces vaches, ces fromages et sa piscine en Normandie, bah, la fameuse piscine de Mox, le MOX là, avec 8,5% de plutonium et 91% d'uranium appauvri. Heureusement, encore appauvri. Alors le MOX, ça veut dire, je donne ce petit détail là parce que ça m'a un petit peu amusé et puis il faut savoir de quoi on parle aussi un peu quand même. Donc le MOX, ça veut dire en anglais, c'est Mixed Oxide. Voilà, pour cette piscine, bah, c'est un peu pour les actionnaires aussi, richissime. Dedans, l'équipe d'actionnaires, on trouve l'État français. On trouve aussi le Japon avec deux sociétés privées, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et alternative maintenant, attention, le CNNC, qui est une société chinoise, et puis, toujours Areva quand même, hein, apparemment, qui n'a pas disparu de la circulation. Nous avons aussi la Caisse des dépôts et des consignations. Nous avons également Natixis Finance Group de la BPCE, c'est-à-dire la banque, l'association entre la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, et puis aussi quand même on trouve des salariés quand même, hein, comme actionnaires, hein. Kevin dans le Morbihan le 8 novembre est dénoncé le climat encore, c'est encore lui le climat toujours, il a bon dos le climat, qu'est-ce qu'on lui met sur le dossard quand même, et c'est chez EHLS Pharma Guest, c'est un équipementier informatique dans le médical, un groupe quand même à 1300 salariés, et à Kevin, il y a une dizaine qui ont déclenché une grève surprise avec la CGT, 24 personnes, hein, à peu près, quand même, au bout d'un moment, et ces militants, donc, de la CGT. Alors, le souci ici, c'est qu'il y a une encadrante, alors je cite, hein, c'est le nom qui a été donné, une encadrante récalcitrante depuis 2021, qui est accusée de casser la cohésion, qui est accusée de casser l'esprit de famille, je recite encore, hein, mot pour mot. Alors, il y a du burn-out ensuite pour quelques salariés. Alors, de ces faits, réunion, direction, ça n'a rien fait, pas grand-chose en tout cas. Et donc, c'est la médecine du travail qui sera là pour constater un peu les dégâts. Est exigé aussi 200 euros bruts par mois d'augmentation, l'embauche de 3 personnes en CDI, salaire, faut dire que le salaire, il n'est pas bézef non plus, c'est 1500 euros net, c'est une première mobilisation. Alors la réaction de la direction, c'est l'étonnement, et quand même, ils ont réagi et ils étudient une réorganisation allégée.
Ok.
Allons-y. Strasbourg maintenant, c'était le 7 novembre pour une reconductible chez le constructeur de boîtes de vitesse Dumaret Power Glide avec la CGT, la CFDT. Encore, on retrouve du mépris de la part de la direction car la situation est mauvaise. Le principal client, ZF, une société allemande, 85% quand même du chiffre d'affaires de Dumaret, hein, c'est pas rien. Hein, mais en fait, fin à la production de boîtes de vitesse haut de gamme, c'est des boîtes à 8 vitesses automatiques. Un plan social arrive, 248 licenciements sur un effectif de 591 personnes. Un fonds de garantie, 60 millions d'euros, alors qu'il en faudrait 100. Selon le syndicat CFDT, et aussi refus de la direction de départ volontaire. Alors, ambiance glaciale à Strasbourg, etc. Pour info, depuis le début 2024, ça c'est autre chose, hein, 52 214 procédures ouvertes concernant des entreprises en difficulté, en hausse par rapport à 2023. Alors, je citais comme exemple Michelin, que tout le monde connaît maintenant, ce qui se passe chez Michelin, le plan, le PSE, Michelin avec Cholet, Vannes, et puis aussi, il faut citer dans le passé récent, il y avait eu Toul également, en Meurthe-et-Moselle, en 2007, La Roche-sur-Yon en 2020, Poitiers, en 2023, et tout ça, ce sont des sites de chez Michelin, et 2 milliards de bénéfices en 2023. Alors à Cholet, pour Michelin, bien sûr, à Cholet, la direction a fait vider les stocks de pneus, discrètement, juste avant l'annonce, donc le 5 novembre, anticipant un risque de blocage, et je dirais, après tout, pourquoi pas aussi, une prise de trésor de guerre qui ne se fait plus tellement, en fait, on n'en entend plus parler, il y a quelques années, une quinzaine d'années, on parlait encore de trésors de guerre, quand même, pour faire changer un peu les choses. Donc, c'est 1254 personnes sur les deux sites en question qui seront en principe virées. Marseille, maintenant, pour finir cette première page, c'était le 5 novembre avec le métropolitain marseillais bondé de détritus. On se rappelle de la société de nettoyage Laser, il y a quelques mois, les salariés en grève des semaines. La nouvelle entreprise en charge du ramassage et du nettoyage qui s'appelle Atalian, donc une autre, encore une société de nettoyage engagée par la municipalité, essuie, si on peut dire sans jeu de mots, un mouvement de colère de ses salariés. Alors, une grève illimitée a été votée en Assemblée Générale et revendique l'embauche de 14 personnes, c'est-à-dire les anciennes employées de Laser. Alors, idem à la gare Saint-Charles, les poubelles débordent. À la mi-octobre, la préfecture avait réquisitionné la société Honnête, une autre, pour le nettoyage de la gare. Les 14 Laser, si j'ose les appeler ainsi, ont leur contrat résilié précisément ce 6 novembre. Il y a une suite. C'était le 15 donc novembre avec la fin de cette grève. Selon RTM donc de Marseille, les syndicats, les grévistes et les 14 entre guillemets Laser deviendraient les 14 donc Atalian maintenant, repris par cette société de nettoyage Atalian. Alors c'est pas le même avis de la part de la direction de Atalian. Il n'y a aucun engagement encore pour l'instant. On est un peu dans le flou. C'est plutôt entre les mains de la justice. Donc là, je dirais encore à suivre.
Tu m'étonnes.
Voilà pour cette première page.
Avec ses sous-traitances à gogo. Nous allons maintenant un petit peu voyager. Je vais vous emmener du côté des États-Unis. On avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais les nouvelles s'enchaînent un petit peu sur les nominations, notamment du prochain gouvernement Trump, si on peut l'appeler comme ça. J'ai appris ce matin d'ailleurs qu'il avait nommé à l'éducation une ancienne propriétaire de... Non, une ancienne directrice générale de la Fédération de catch.
Ah bon ?
À l'éducation, c'est bien, c'est pas mal.
D'accord.
Ouais, non, mais c'est un peu osé. Puis...
Les États-Unis est un ring.
Ouais, et là, est-ce qu'il a osé aussi ? C'est assez fou. Je voulais revenir un peu plus dessus parce que ça renvoie à pas mal de choses. C'est la nomination de Robert F. Kennedy à la santé.
De la grande famille.
Oui, de la grande famille. Dénué d'expertise médicale, mais riche d'un passif conspirationniste aux conséquences déjà graves, RFK Jr. est rétribué de son soutien à la campagne de Donald Trump par une nomination à la tête des politiques sanitaires des États-Unis, alarmant experts et médecins. Parmi la litanie de promotions affligeantes opérées jour après jour par le président réélu Donald Trump, répartissant les portefeuilles de sa future administration entre les loyalistes, ayant appuyé sa campagne ou défendu ses intérêts devant la justice, cette nomination, donc de jeudi dernier, jeudi 14 novembre, à la tête du ministère de la Santé, est certainement celle qui résume le mieux le cirque Trumpiste comme amalgame de cours de roi et de miracles. Un vaste théâtre d'opportunisme narcissique et de dérèglement qui est aussi et surtout un imminent et immense danger public. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce RFK Jr., c'était d'abord le challenger de Joe Biden lors de la primaire démocrate. Donc il était démocrate le coco.
Puis, toute la famille Kennedy.
Ouais, et puis c'était un tiers candidat indépendant. C'est-à-dire qu'il s'était quand même présenté, malgré sa défaite à la primaire démocrate, contre Biden et contre Trump, comme un candidat indépendant. Mais il a finalement rallié Donald Trump fin août, en échange du genre de gratification reçu jeudi. Et Trump disait « Je vais le laisser se lâcher sur la santé, l'alimentation, les médicaments. » Voilà, c'est quand même sympa, ça. C'est un drôle d'animal politique, sans garde équivalent actuel, difficile à prendre au sérieux, et il faut bien essayer pourtant. Par-delà son patronyme attaché à l'histoire du Parti démocrate, une prise de guerre qui, à l'évidence, enchante Trump. Il trimballe quelque chose de fascinant par la façon dont il incarne de tout son être un trait d'union entre le conspirationnisme surdosé dans lequel baigne son discours et ses tragédies American 60s qui ensanglantèrent son histoire familiale et constituèrent l'un des terreaux les plus fertiles du complotisme moderne, les assassinats successifs de son oncle JFK et puis de son père Bobby. Et il aura donc su optimiser, au-delà de toute espérance, les retombées d'une campagne dysfonctionnelle, sans étiquette fixe ni autre horizon qu'être le trouble fait de la présidentielle, avec pour principal étendard la prétention d'être celui qui rendra la santé à l'Amérique, renié lors de sa campagne par des dizaines de membres de sa propre famille, au motif du risque qu'il faisait peser sur les chances démocrates face au péril Trump. L'héritier de la dynastie, au nom le plus chromé de l'histoire politique américaine, accède donc à 70 ans à une lumière et de hautes responsabilités dont le désir le consumer à l'évidence de longue date. Alors, sous réserve de confirmation par le Sénat, mais où les Républicains ont reconquis une majorité de 53 sièges à 47, se croiser d'un obscurantisme anti-science et volontiers complotiste se trouvera ainsi en charge d'un département de 80 000 employés, régentant tout l'arsenal sanitaire américain. Il lui reviendrait de présider aussi bien la mise sur le marché des médicaments qu'à la politique vaccinale, sa bête noire depuis une vingtaine d'années, les normes de sécurité alimentaire, la recherche médicale ou les programmes publics assurant la couverture de santé de plus de 130 millions d'Américains et la quasi-totalité de la communauté médicale du pays de retenir son souffle face à un défi inédit qui transcende ses divisions et clivages habituels. Nous avons déjà eu des candidats avec lesquels nous étions en désaccord sur la politique ou l'idéologie, mais jamais quelqu'un dont on ne peut même pas faire confiance à la parole, s'alarme George C. Benjamin, directeur exécutif de l'Association américaine de santé publique. L'organisation a d'ores et déjà annoncé qu'elle s'opposerait absolument à la nomination de Kennedy. Il n'a ni la formation, ni les compétences de gestion, ni le tempérament, ni la crédibilité nécessaire pour ce poste. C'est tout simplement la pire personne possible, tranche Benjamin. Rappelant que ce juriste de formation sans éducation médicale a déjà causé des dégâts considérables dans le domaine de la santé publique. Les obsessions d'un Kennedy et ses suiveurs, désormais en voie d'institutionnalisation, s'édifient certes sur un constat parfaitement incontestable. Aucun pays au monde ne dépense autant que les États-Unis en matière de santé pour des résultats médiocres à l'échelle des pays comparables. Mieux protégés de l'influence d'intérêts industriels, pharmaceutiques et agroalimentaires, les Américains auraient largement les moyens de manger mieux, de vivre plus longtemps et en bien meilleure santé. Par-delà la pandémie de Covid et l'effroyable vague d'overdose de ces dernières années, l'espérance de vie américaine connaît un déclin depuis une décennie. Mais les positions ondoyantes et fréquemment auto-contredites adoptées par Kennedy Jr. au fil des 20 dernières années, après s'être fait connaître surtout pour son activisme d'avocat environnemental, s'apparentent à un catalogue irraisonné de délires et de théories fumeuses, plus ou moins paranoïaques, réfutées par les consensus scientifiques établis. Il remet en cause le lien entre SIDA et VIH, pourtant validé par un prix Nobel en 2008, assure que la vaccination des enfants accroît le risque d'autisme, dénonce dans les antidépresseurs la cause des tueries de masse. Il attribue au réseau 5G le pouvoir de contrôler nos comportements et affirme en écho premier degré aux caricatures du docteur Folamour de Stanley Kubrick que la fluorisation de l'eau potable est un poison d'État portant atteinte au développement cérébral. Un dispositif auquel il a déjà promis de mettre un terme dès son entrée en fonction, alors que ses bienfaits pour la santé dentaire sont considérables, sans inconvénients sérieusement démontrés. RFK Junior prétend aussi au diapason du pape conspirationniste Alex Jones que des perturbateurs endocriniens créent une entre guillemets confusion sexuelle et de genre chez les enfants susceptibles de rendre les mômes gays ou trans. Il affirme que le wifi provoque entre guillemets le cancer et des fuites cérébrales. Il promeut le lait cru malgré les risques bactériologiques et en pleine épidémie américaine de grippe aviaire H5N1. Il a qualifié le vaccin anti-Covid de entre guillemets plus mortel jamais fabriqué avant d'y adjoindre une théorie antisémite documenté en vidéo lors d'un dîner public à l'été 2023, où il pérorait sur un virus dont il assurait que l'action était ethniquement ciblée, conçue pour attaquer les blancs et les noirs, tandis que les juifs ashkénazes et les chinois seraient largement épargnés. Ministre de la Santé, ce monsieur. Hein. Sa vision même du système de santé qu'il est appelé à diriger repose sur une théorie du complot total, ouvrez les guillemets. Les agences fédérales sont captives des industriels qu'elles sont censées contrôler et toutes ont intérêt aux subventions et à l'empoisonnement de masse du public américain. De fait, cette rhétorique est de la promesse de purge. Quantité de fonctionnaires de la FDA, l'agence des produits alimentaires et médicamenteux, se prépareraient à quitter leur poste, selon des sources internes citées par NBC, alors même que le turnover s'était avéré assez limité lors du premier mandat de Trump. Une hémorragie que candidat Kennedy Jr. semblait d'ailleurs encouragé, sommant déjà les fonctionnaires de ce système corrompu, entre guillemets, de conserver leurs archives et faire leurs valises, appelant à l'élimination de départements entiers comme celui de la nutrition. Et à l'Institut National de Recherche Médicale, Kenny Junior a annoncé envisager le licenciement de 600 chercheurs et un moratoire sur l'étude des maladies infectieuses. On va faire une pause d'environ 8 ans en la matière, a-t-il déclaré, suscitant dans le New York Times une réplique amère du docteur Mandy Cohen, directrice du CDC, Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies. Malheureusement, les virus ne respectent pas les cycles politiques. Notre écosystème vaccinal est déjà dans un état fragile au risque que sa nomination en précipite l'effondrement, s'inquiète dans le Washington Post le docteur Peter Hotez, expert en infectiologie, doyen de l'École nationale de médecine tropicale et auteur d'un livre en réponse aux thèses anti-vax de Kennedy. Pointant la récente multiplication par 5 des cas de coqueluche, les 16 foyers de rougeole détectés cette année aux États-Unis contre 4 en 2023, tandis que la polio resurgissait à New York en 2022. La médecin Mandy Cohen ne cache pas son inquiétude. Nous avons la mémoire courte. Nous avons oublié ce que c'est que de tenir dans ses bras un enfant paralysé par la polio ou de réconforter une mère qui a perdu son enfant à cause de la rougeole. Et à la veille de sa nomination, Kennedy faisait certes mine de vouloir amadouer en mettant de l'eau dans son vin. Donc il disait bien sûr, nous allons retirer les vaccins à personne, assurait-il à la radio. Nous voulons simplement nous assurer que les Américains disposent de bonnes informations. Mais ces idées n'ont cessé de progresser depuis 2 décennies en se déguisant d'une confusion de paradoxes et de revirements sciemment entretenus dans ses positions qu'elle porte sur le droit d'accès à l'IVG, qui pourrait relever bientôt en partie de ses prérogatives, la guerre en Ukraine, où il a parfois largement épousé les positions du Kremlin, ou le statut des insurrectionnalistes pro-Trump du 6 janvier 2021, qu'il a dépeint en activistes privés de leurs droits constitutionnels, avant de se dédire. Donc voilà, ce fameux monsieur, à défaut de clarté, les conséquences concrètes et humaines de son action, avant même sa récente promotion au sein du gouvernement, parce qu'en 2019, un an après une campagne de son organisation au Samoa, inondée sous ses thèses anti-vaccins, une épidémie de rougeole avait provoqué 57 000 infections et avait fait 83 morts. Donc voilà pour ce futur ministre de la Santé, s'il est confirmé par le Sénat américain. Donne envie tout ça.
Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une petite musique ou on continue dans la...
C'est quelle heure ? Oui, on peut faire une petite courée, c'est pas très long, je pense, ouais.
Ouais, c'est 2 minutes 30.
Eh ben allez, c'est
parti. On va écouter encore Claudine Lebeg, qui nous interprète cette fois... où c'est qu'elle est ? Quand il fait chaud.
Voilà. C'est parti !
Un petit carré derrière l'usine, un atelier sans les machines, une mélodie au bord de l'eau, une vodka, une botte paille, les chevaux et ça ira. Une mélodie au bord de l'eau et tout ce qu'on fait quand il fait chaud. Il fait chaud. Un petit porto sur l'esplanade, derrière les murs rouges grenades. Un coup de printemps dans les carreaux, panorama sur les flambeaux. Un coup de printemps et tout ce qu'on fait quand il fait chaud. Une envie de quitter l'hiver, se rafraîchir en la matière, oser misère, avoir le front, la boutonnière, le jasmin, le canon. Oser misère, avoir le front, et tout ce qu'on fait, ou qu'on ne fait pas, quand il fait chaud.
Et allez, il est 20h51 sur l'horloge de Radio Canu, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires l'émission des militantes militants de l'Union communiste libertaire. Et on va enchaîner du coup avec une deuxième page de lutte sociale.
Oui, plus courte quand même. On va aller dans la capitale là, avec Paris, donc bien sûr le 7 novembre, avec la société ou studio qu'on l'appelle aussi. Alors c'est en anglais, je vais essayer de prononcer ça correctement. Dontnod.
Ok.
Ça veut dire, je l'ai noté quand même, je me dis merde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est Dontnod Entertainment, alors ce qui veut dire ne hoche pas la tête. Je suis sûr que j'ai étonné beaucoup de monde. Donc c'était à Paris, c'est une société ou studio, comme il s'appelle, de jeux vidéo, dit divertissement engagé, qui va supprimer quand même 69 postes sur 230. Alors donc, grève, évidemment, avec le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, STJV, pour dénoncer le sous-effectif. Grève qui intervient après celle du 28-10 pour un tiers du personnel. Il y avait donc anguille sous roche dans cette société qui crée des jeux, des jeux progressistes, avec la démission dans un premier temps du DRH et peu avant même le dirlo adjoint qui avait foutu le camp. Deux personnes donc qualifiées, créatives, je cite encore là le commentaire, et puis aussi le directeur narratif qui avait aussi donc fait ses bagages selon le syndicat STJV. Alors ça sentait un peu le cramé, non, chez Dontnod Entertainment. C'est dans l'Isère, c'était le 11 novembre, avec une grève à la clinique psychiatrique clinique du Dauphiné, qui essuie donc cette colère des soignantes et soignants pour une grève illimitée. Alors cette clinique fait les beaux jours quand même du groupe Emmaüs, qui a pris donc la suite du groupe Orpea. On se repense les trucs comme ça ensemble, c'est formidable dans ces métiers là, c'était en 2020 avec ce rachat. Alors c'est pas pour autant que les conditions, toutes les conditions se sont améliorées. La vingtaine de grévistes avec la CGT était au portail de l'établissement pour dénoncer toutes les dérives concernant le planning, à savoir 5 fois 7 heures hebdomadaires au lieu de 3 fois 12 actuelles, qui sont beaucoup mieux et on s'organise beaucoup mieux pour aider les patients et patientes. Ça crée aussi une surcharge de travail, il y a un manque de soignants, ils sont 3 pour 35 patients par exemple, qui sont des patients et patientes qui sont en situation lourde, avec obligatoirement une présence constante des soignants et des soignantes. Les salaires sont également en négociation. Et puis on ira du côté de Cergy-Pontoise, même carrément à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise 95. C'était le 7 novembre, avec une grève des transports de l'agglomération qui est gérée par le groupement Lacroix-Savac pour l'Île-de-France Mobilité. Les conducteurs dénoncent les conditions de travail avec le syndicat EFO. Alors dialogue tendu avec la direction, dépôt de cars bloqué. La SAVAC là, a succédé au Stivo, la société des transports interurbains du Val d'Oise, Stivo, voilà. Concurrence voulue donc en Île-de-France, 32 lignes dans cette région qui touche à la fois le département 95 et le 78, qui est les Yvelines, qui sont voisins. Et les salaires donc aussi qui étaient présents sur la table des négociations, et également les primes, ils ont trouvé donc une direction plutôt revêche. C'est 80 000 quand même usagers jour dans cette région. Voilà pour cette
petite page
unique. Oui, je te laisse pour le.
Je finis. Je vais peut-être se refaire parce que j'avais. On va se faire les annonces. Je garderai ça pendant 15 jours. Tout ça, ça pressait pas ça. Oui. On fera un petit tour en Argentine dans 15 jours. On aura un peu plus le temps. Par rapport aux annonces, on vous rappelle donc ce vendredi 22 novembre, si je ne fais pas d'erreur, c'est bien ça. Avec un rendez-vous à partir de 18h30, il me semble, je retourne ma petite feuille, je laisse, c'est parti. 18h même, à l'île Égalité, au 6 rue de l'Égalité, pour une projection du film One Yacht sur une terre de la République française, organisée par le MKF Lyon et le collectif Solidarité Kanaki. Voilà, je vous rappelle, hein, ça revient sur un événement le 5 décembre 84, des militants kanaks indépendantistes victimes d'une embuscade, 10 morts, 5 blessés graves, et ça permettra aussi de parler de l'actualité là-bas. Ouh, on va y arriver. Et pour le droit à l'autodétermination contre le colonialisme et le racisme en Kanaky. Donc voilà, ça c'est pour vendredi 22 à l'illégalité. Le samedi 23 novembre, on vous rappelle la manifestation pour la journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes. Ça se passe sur Lyon, du coup, la journée c'est le 25, mais la manifestation est bien ce samedi 23 novembre. À partir de 14h sur la place Bellecour, il y aura l'apnik des femmes en blanc dans le cadre du festival Brisons le silence de Filaction. Et à partir de 15h, la manifestation appelée par le collectif Droits des Femmes 69. On y sera présent, aux deux d'ailleurs, hein, à l'illégalité, avec même une petite table de presse avec quelques bouquins sur le sujet, et sur la manifestation avec un cortège. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous pouvez nous retrouver aussi dimanche, je vous laisse regarder ça, vous pouvez vous inscrire, mais il faut le faire vite maintenant. Donc voilà, et il n'y aura certainement pas de permanence ce samedi après-midi, au vu du programme militant du week-end, et surtout de la manifestation qui est prévue à 15h, qui part peut-être avec un peu de retard, et on espère que ce sera une mobilisation massive, comme le sont les mobilisations du mois de novembre et du mois de mars sur Lyon. Qui dit mobilisation massive dit manifestation qui va durer un peu plus longtemps et qui du coup ne permettra pas d'ouvrir comme on a l'habitude de le faire après des mobilisations vers 17h la permanence. Donc on s'excuse pour ce samedi et on espère vous retrouver dès samedi prochain. Il y a eu pas mal de passages. En tout cas, le week-end dernier, samedi dernier, c'était plutôt sympathique de voir autant de monde. Oui. Donc n'hésitez pas à passer, voilà, donc pas ce samedi, mais celui d'après. Notamment si vous voulez commencer un peu à faire vos petites courses de fin d'année, notamment en livre, voilà, n'hésitez pas à venir vous servir chez nous. Ça permet de soutenir aussi un lieu autogéré. Et semaine prochaine, même heure ici à 20h, l'émission Yé Noir avec nos deux camarades qui prennent la suite une semaine sur deux. Quant à nous, nous vous retrouverons dans 15 jours. Je vais vous le dire tout de suite, on sera le 4 décembre. Voilà, on prend rendez-vous pour le 4 décembre. On fera sûrement du coup de mon compte, en tout cas, il y aura toujours les luttes sociales et notamment un petit saut en Argentine, sûrement, pour faire un peu le bilan des 1 an de Javier Milei au pouvoir. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end militant, et puis prenez soin de vous.
On termine avec notre excellent générique. Voilà, on va vous écouter tout ça, et puis dans 15 jours pour nous.
Et puis semaine prochaine pour les camions.
Sur cette antenne de Radio Canus. Salut.
Salut.
Clé en bâclant sa lecture du soir. Un peu plus tard, t'attaques les tympans, les tenants, les abrutissants. Un max doit d'être pimpant pour devenir un territoire. D'abord, ta gueule, tu le veuilles ou non. Tu portes les cocards d'un aïeul à l'œil d'ailleurs, t'attardes pas à l'accueil. D'où que tu viens, tu représentes une boule au ventre, une grossesse de plus en plus prégnante. T'es né en démocratie reposante, tu ne seras jamais un héros. D'ailleurs à ces démocraties dictées, addictées, indépendants. Chez nous la bise c'est zéro, même quand on a les mains en sang. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on offre un naufrage, ça dit qu'à nos marmots, que ça manque de canaux. Ça dit que ça manque de sadique Arnaud. Ça dit que ça manque d'insécurité, l'ubercuté tentant pour qui marche tête BCBG. Les décès d'antan, d'aujourd'hui les blessés légers, laissez les gérer qu'on entend. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Et vous êtes à l'écoute de Radio Canut, toujours ces belles bandes continues faites par les